Vivre FM, podcast.
9h-10h,
à chacun son sport sur Vivre FM.
Cécile Hernandez-Cervelon,
Renaud Good.
À chacun son sport, bienvenue à tous, merci de nous écouter encore une fois comme tous les samedis matins à 9h. Ce matin, on va parler rugby fauteuil. Et oui, vous avez bien entendu, on peut pratiquer le rugby en fauteuil. On va avoir deux invités, Michel Terfond, directeur sportif, et Pasquale Gallo, le kiné de l'équipe de France. L'équipe de France qui s'est qualifiée pour les Jeux Paralympiques de Rio suite à sa brillante prestation lors du tournoi de qualification olympique qui a eu lieu à Paris au mois d'avril. On revient tout de suite vers vous pour parler rugby fauteuil. Bienvenue à tous. Son sport, donc ce matin, on va parler rugby fauteuil. Et oui, vous avez bien entendu, on peut jouer au rugby en étant assis dans un fauteuil. Nos deux invités du jour vont nous expliquer tout cela. Tout d'abord, en face de moi, Pasquale Gallo, kiné de l'équipe de France. Bonjour Pasquale.
Bonjour.
Et puis, par téléphone, Michel Terfond, le directeur sportif du rugby fauteuil en France. Bonjour Monsieur Terfond.
Oui, bonjour.
On a décidé de parler rugby fauteuil parce qu'il y a eu une belle actualité dans la deuxième quinzaine d'avril. C'est la qualification de l'équipe de France pour les Jeux Paralympiques de Rio lors du tournoi de qualification qui a eu lieu à Paris. Avec, c'était pas gagné d'avance, hein, Michel Terfond, cette qualification, même si la compétition était à domicile.
Oui, tout à fait. Oui, la compétition était peut-être à domicile, mais c'était pas gagné d'avance avec six équipes, donc cinq équipes étrangères et puis la France. Dans ces cinq équipes étrangères, il y avait les USA qui sont numéro 2 mondiaux,
oui.
La Nouvelle-Zélande qui sont septième, qui était septième à l'époque, le Danemark qui était sixième, l'Allemagne qui était derrière nous et la Finlande aussi. Mais il y avait quand même des équipes devant nous et c'était pas gagné d'avance.
Un gros tournoi très relevé. Ça aurait été un gros échec de pas aller à Rio.
Un gros échec. Oui et non, tout dépend la manière dans la manière où on n'aurait pas gagné, où on n'aurait pas été qualifié dans ce tournoi. Voilà, si on avait super bien joué, que les autres étaient supérieurs, après voilà, les meilleures équipes y vont. Voilà, on a été supérieurs. C'est une confirmation de Londres, parce que quand on a été à Londres lors des derniers jeux, on nous a dit qu'on avait été un petit peu par hasard, un petit peu, donc on n'avait pas trop bien apprécié.
Bien sûr.
Et on avait une petite revanche à prendre, voilà, en se disant, ben, on va leur prouver qu'on n'avait pas été par hasard et qu'on avait bien été grâce à notre jeu et notre talent, voilà. Et puis, on avait, comme j'ai dit un petit peu, on a été à Londres voir ce qui se passait, comment ça se passait un petit peu. Et puis, on va aller à Rio pour faire quelque chose, voilà.
D'accord.
C'est ambitieux, mais je pense qu'on peut le faire. Hein.
Faire quelque chose, ça serait atteindre les quarts de finale.
Non, attends, les demi-finales.
Les demi-finales, c'est très bien.
Et
bien
encore,
encore plus d'ambition, c'est parfait. Je rappelle que pour se qualifier, il fallait être en finale du tournoi de qualification olympique. Vous avez été en finale et ce sont les États-Unis qui ont remporté ce TQO. On reviendra sur le haut niveau du rugby fauteuil. Je vais me tourner vers Pasquale Gallo. Le rugby fauteuil, finalement, c'est quoi et ça s'adresse à qui?
Alors, c'est quoi? C'est un sport créé de toutes pièces par des sportifs handicapés qui veulent faire un sport non adapté du terrain valide au terrain handisport.
D'accord.
Ce qui rend ce sport très particulier. Donc, c'est la finalité de trois sports. Donc, on peut dire, ils ont pris, les initiateurs des règles du basket, des règles du hockey, les règles de passe du hand.
D'accord.
Et ils en ont fait un sport de contact qui s'appelle aujourd'hui rugby fauteuil.
C'est parce que c'est un sport de contact en fauteuil qu'on a appelé ça rugby?
Oui, exactement, parce que la dénomination avant c'était murder ball. Donc, au niveau international, c'est la terminologie, je pense pas qu'elle est satisfaisante. La dénomination aussi, couramment, on peut l'appeler le quad rugby.
D'accord.
Quad, justement, j'en viens parce que quadriplégique, donc la terminologie anglo-saxonne de tétraplégie.
D'accord. Il faut être handicapé des quatre membres.
Exactement.
C'est ça ?
Initialement, c'était que des tétraplégies.
Oui.
Voilà, ou des tétraparésies. Et ensuite, ce sport s'est ouvert avec donc les maladies associées qui rendaient en situation d'incapacité au moins quatre membres.
D'accord.
Le tronc plus deux membres inférieurs plus un membre supérieur, ou alors deux membres sup et deux membres inférieurs.
D'accord. Voilà. On va pas trop rentrer dans le détail, mais à partir du moment où on est atteint des quatre membres, on peut jouer, quel que soit son âge, quelle que soit entre guillemets sa condition physique, à ce sport.
Oui, il faut juste être en capacité de déplacer un fauteuil roulant manuel.
D'accord. Michel Terfond, cette appellation rugby, qui apparemment, comme nous disait Pasquale Gallo, n'a pas forcément grand-chose à voir avec le vrai rugby, du moins en termes de jeu, porte quand même bien son nom parce qu'il y a du contact, il y a un esprit collectif, et j'aurais tendance à dire c'est viril mais correct.
Tout à fait, oui, mais il y a en dehors de c'est une sorte de rugby parce que il y a d'autres rugby qui ne ressemblent pas forcément au rugby traditionnel. Hein. Voilà, le rugby pour les jeunes, il n'y a pas forcément de mêlée, ainsi de suite. Hein.
Ouais, ouais.
Et puis il y a tout aussi l'esprit du rugby qui est là, la solidarité, les petits points, alors ça on va pas rentrer en détail, mais des personnes qui sont plus handicapées, avec des moins handicapés, tout en étant un lourd handicap, hein, quand
bien
on
sûr.
Parle des quatre membres. Voilà, et au rugby on retrouve ça, il y a les petits, il y a des gros, il y a des coquins qui courent plus vite, là, qui courent moins vite, il y en a qui font bonne passe, d'autres qui font moins de belles. Il y a une solidarité au rugby qu'on retrouve dans le rugby fauteuil, voilà.
D'accord.
C'est là où est le rugby, voilà, et la solidarité des gens.
Il y a même des clubs de rugby valides, hein, comme Clermont, Toulouse, qui ont leur section de rugby fauteuil.
Oui, oui, mais il y a Clermont, Toulouse, Montpellier, Toulon, Nuit-Saint-Georges, Roubaix, voilà.
Ouais.
Et bientôt d'autres, voilà, à Limoges, le club de Limoges est en train de se rapprocher justement de la section de rugby fauteuil qui est à Panazol pour justement intégrer son rugby dans le rugby, parce que la Fédération française de rugby, dans son programme, a dit qu'il voulait développer tous les rugby, donc les clubs commencent à prendre cette initiative.
D'accord.
Après, à intégrer la FFR, c'est une autre histoire, mais...
Ouais.
Pour l'instant, si des clubs commencent à faire le premier pas, après peut-être la FFR fera le pas aussi. Il y a des élections qui arrivent, voilà. J'espérons, je fais un petit clin d'œil à Monsieur Camus et puis à Monsieur Laporte, voilà, pourquoi pas. Hein.
Monsieur Camus, le président actuel de la Fédération française de rugby, et Bernard Laporte, le manager de Toulon et candidat à la présidence de la FFR en 2017. Michel Terfond, combien il y a de licenciés en France actuellement, et est-ce que c'est un sport qui est ouvert à tous, quel que soit son âge? Est-ce que c'est un sport mixte également? Finalement, est-ce que tout le monde peut pratiquer le rugby fauteuil?
Tout à fait. Alors, tout le monde, Pasquale l'a expliqué tout à l'heure, donc c'est réservé à un certain handicap.
Oui.
En compétition, après, tout le monde peut en pratiquer dans les clubs ou lorsqu'on fait des petits tournois amicaux. C'est un sport mixte, c'est un des seuls sports qui est mixte d'ailleurs. Hein. Il y a les filles ou les garçons jouent ensemble dans les mêmes équipes. Donc voilà. Alors actuellement, il y a à peu près 180 licenciés en compétition.
D'accord.
Il y a autour de 220 compétitions et loisirs.
D'accord. Est-ce que dans le loisir, par exemple, une personne valide peut s'asseoir dans un fauteuil et pratiquer, bien sûr pas en compétition, mais juste pour voir comment ça se passe?
Ben, tout à fait, oui. Il y a des clubs où ils ne sont pas très nombreux. Ils demandent à ce qu'il y ait des personnes qui sont... d'accord pour pouvoir s'asseoir, pour pouvoir jouer, pour faire l'opposition, parce que pour pouvoir travailler comme il faut une opposition. Donc en général, pour trouver des personnes handicapées pour jouer vraiment au rugby fauteuil en compétition, il faut quand même être dans les grandes villes ou alors dans des villes assez importantes, et les gens viennent d'assez loin quand même, hein, des gens qui font 100 km pour pouvoir trouver un club de rugby fauteuil. Hein.
D'accord.
Bienvenue. Puis, on est obligé de se servir des personnes valides, entre guillemets, pour nous aider aussi, parce qu'il y a des mécanos. Donc, une personne handicapée, pour être mécano, c'est un petit peu compliqué, parce que c'est souvent qu'on perce par rapport au choc, et ainsi de suite. Donc, on a toujours besoin de personnes valides. Et puis, c'est un mixte, et voilà, c'est la grande famille. C'est la grande famille.
Pasquale Gallo, Michel Terfond vient à l'instant de nous parler de choc. Vous êtes kiné donc de l'équipe de France. Quand on pense rugby, on pense forcément contact. Alors, il y a de l'évitement, bien sûr, mais c'est avant tout un sport de contact, un sport viril, un sport de gros gabarit. Est-ce qu'on retrouve cette ambiance-là de pack, d'être rugueux sur l'homme, comme on dit? Et est-ce que finalement, c'est pas traumatisant de faire du rugby fauteuil. Si jamais il y a un gamin de 15 ans qui vient vous voir et qui vous dit moi je veux jouer au rugby fauteuil, vous lui conseillez, comment ça se passe?
Ah, je lui conseille parce qu'ensuite je lui demanderai de me trouver un sport collectif où il n'y a pas de contact, ça va être compliqué.
Ouais, il y a le volleyball.
ouais, le contact avec le sol, il peut aussi faire mal.
C'est vrai.
Et du coup, non, bien sûr qu'il y a des contacts comme dans tous les sports. Alors oui, par contre, il y a de l'évitement, mais le contact, il est cherché. Il est cherché, par contre, il est normé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas percuter le fauteuil n'importe où.
D'accord.
Ça peine vraiment d'être extrêmement dangereux. Donc le choc par derrière, ça peut faire le spinning vertical. La tête de l'athlète adverse peut taper le pare-choc. Non, c'est très dangereux, donc c'est très réglementé.
D'accord.
D'ailleurs, ça peut être très sévèrement puni.
Mm-hmm.
Ensuite, c'est évident que... encore plus pour une personne en situation de grand handicap, c'est ce qu'on appelle le grand handicap, la tétraplégie, la quadraplégie, il va y avoir du traumatisme.
Ouais.
Mais ce n'est pas le choc qui va faire le traumatisme. Ça va être le travail de la dextérité au fauteuil.
Ouais.
Et du coup, certes, ça va peut-être un petit peu au début abîmer les épaules, faire chauffer ce qui reste d'articulation fonctionnelle, mais in fine, c'est toujours plus bénéfique que traumatisant.
D'accord.
Bien évidemment, ensuite, la structure médicale, la structure encadrante de chaque club loisir, c'est surtout ça, en fait, hein, les blessés, et c'est surtout chez les athlètes loisirs et les débutants. Eux, normalement, en tant que grand handicapés, ils doivent avoir un suivi.
Il n'y a pas de contre-indication particulière pour pratiquer le rugby fauteuil, juste à savoir que finalement, il y a peut-être un peu plus de contact dans ce sport-là que dans d'autres, finalement, comme le rugby valide qu'on peut pratiquer aussi bien à haut niveau qu'à moyen niveau. Michel Terfon, cette qualification pour les Jeux paralympiques à Rio, est-ce que c'est aussi peut-être un moyen d'attirer plus de monde vers la pratique de cette discipline?
Ben, j'espère, oui, puisque France Télévisions va faire des directs sur certaines disciplines et dans
oui.
le rugby fauteuil. Donc on aura, parce que là...
On parle d'une centaine d'heures hein, de directs de la part de France
oui,
Télévisions à Rio.
Tout à fait, oui. Et ils ont choisi des sports dans le rugby fauteuil. Donc moi, ça me fait énormément plaisir. On aura une fenêtre médiatique importante et j'espère bien qu'au mois d'octobre, au retour ou fin septembre, au retour de Rio avec une médaille.
Encore plus d'ambition qu'en début d'émission, hein, je vois. Très bien, très bien.
Non, mais bon. Oui, mais il faut voir avoir l'ambition. De toute façon, si on n'a pas l'ambition dans la vie, on n'arrive pas à grand-chose.
Ouais.
Nous allons pouvoir satisfaire des gens qui sont actuellement, qui cherchent un sport, justement, et qui vont découvrir celui-là. Parce que en France, il faut bien dire que la première équipe de rugby fauteuil date de 2004 à Toulouse.
D'accord.
Donc, dans le monde, c'est... Donc, comme disait Pasquale tout à l'heure, c'était 77 au Canada. Donc, il y a un
c'est un sport jeune en France.
C'est un sport tout jeune en France.
D'accord.
La commission à la fédération française et la fédération a reconnu ce sport en 2008, c'est-à-dire juste après les Jeux de Pékin. Voilà, et donc on a grandi très très vite en se qualifiant pour les Jeux de Londres et pour ceux de Rio. C'est-à-dire qu'en 7 ans, on s'est qualifié deux fois quand même. On a été toujours présent depuis que la commission existe sur les jeux paralympiques. C'est une chose que la fédération n'avait jamais imaginé, je pense.
Vous allez continuer de nous expliquer cela tout de suite après la pause. Je vous coupe et on se retrouve tout de suite.
Jusqu'à 10h sur Vivre FM,
à chacun son sport.
Renaud Goud, Cécile Hernandez-Cervelon.
Parler rugby fauteuil dans À chacun son sport sur Vivre FM ce matin. On reçoit Pasquale Gallo, le kiné de l'équipe de France, et on a par téléphone Michel Terfon, le directeur sportif. Michel Terfon, je rappelle hein, que l'équipe de France s'est qualifiée pour les Jeux paralympiques pardon, de Rio. C'est la deuxième qualification de suite après Londres en 2012. On a vu que finalement c'était un sport évidemment de contact, mais ouvert à tous. Malgré tout, Michel Terfon, est-ce qu'il y a des qualités quand même de base à avoir pour tout de suite savoir jouer ou du moins pouvoir être aligné dans une équipe?
Alors, des qualités, il faut aimer déjà le contact. Hein.
Ouais.
Comme vous disiez, c'est un sport de contact, donc il faut aimer le contact. Il faut aimer la stratégie parce que c'est un sport très stratégique.
Ouais.
Si les personnes qui vont regarder en premier, ils vont voir, ils vont dire, mais non, c'est... Alors, en parlant vulgairement, c'est un gros bordel, mais c'est un bordel, comme je dis, c'est un bordel organisé.
D'accord.
Donc, c'est très, très fin.
Il y a combien de joueurs? On ne l'a pas dit, ça.
Alors, c'est 4 contre 4.
D'accord.
Et en tous, une équipe, c'est 12 joueurs. Et après, on tourne, c'est Ouais, il y a des remplacements parce qu'il y a des line-up par rapport au nombre de points, c'est par rapport aux les points, c'est les handicaps qu'ont les joueurs.
Voilà, c'est un petit peu comme au basket fauteuil. Sur le terrain, on doit pas dépasser un certain nombre de points qui correspondent à différents handicaps. Voilà, c'est un petit peu ça, hein, pour résumer.
Tout à fait, voilà. Au rugby fauteuil, c'est 8 points, donc.
D'accord.
Et puis là, par rapport à les stratégies de jeu, on met différents joueurs sur le terrain, voilà.
D'accord.
Ça s'appelle des line-up. Okay. Et selon la line-up, eh ben, ça joue vite, moins vite, plus stratégique, ça joue toujours stratégique, mais plus rapide, moins rapide, voilà.
Ouais.
Des fois, il y a des joueurs, si vous prenez des joueurs qui sont, comment on dit, middle point, des milieux de points, c'est-à-dire des deux points, on peut mettre quatre joueurs sur le terrain qui ont deux points, et là, ça va jouer peut-être moins vite, mais très précis, parce que ces joueurs-là auront des mains à peu près valides.
D'accord. Ça se joue sur un terrain de basket, hein, mais c'est un terrain propre au rugby fauteuil, mais on est dans un gymnase ou dans une salle de basket, hein, sur un parquet de basket.
Tout à fait, oui, sur les dimensions d'un terrain de basket, voilà.
D'accord.
Mais on retrouve pas mal de règles de basket quand même dans ce sport quand même.
D'accord. Pasquale Gallo, est-ce qu'il y a des coups ou des blessures particulières liées à ce sport où finalement il peut y avoir de tout et n'importe quoi?
Non, il ne peut pas y avoir de tout et de n'importe quoi. Et en fonction de la classification, donc, et ensuite en plus en fonction de la pathologie qu'il porte, on va retrouver en fait des familles de pathologies liées, pour faire un parallélisme, presque à des sports de vitesse de balle comme le handball,
ouais,
ou des sports de raquette, parce
D'accord.
qu'il y a une grande sollicitation des épaules et du coup il y a une grande sollicitation à haute vitesse en fait, donc ils vont très vite, ils s'arrêtent, ils recommencent, donc souvent c'est des pathologies tendineuses au niveau de l'épaule,
ouais,
ou alors on a des contusions, des chocs comme on peut avoir dans n'importe quel autre sport, et ça c'est lié soit au contact, soit aux chutes,
mm-hmm,
voilà. Mais c'est assez rare de voir des fractures. Bon, nous, on en a eu malheureusement l'année dernière, le capitaine qui se fait fracturer un doigt à Prague.
D'accord.
C'est presque pas de chance. Il laisse traîner la main derrière, il prend un hit et malheureusement, il y a le doigt au milieu, quoi.
D'accord.
Mais ça reste... C'est pas rare parce qu'il y en a plus que ce qu'on pense. Parce que les tétras, surtout les petits points, ils n'ont pas du tout de sensibilité.
Mm-hmm.
Et du coup, des D'accord. fois, ça passe un peu inaperçu. Mais je pense qu'il y en a... Si on les recensait... Il y en a plus que ce qu'on peut imaginer.
D'accord. Michel Terfond, le rugby fauteuil en France, il est organisé comment? Il y a un championnat, il y a différents championnats, il y a des coupes, il y a des coupes d'Europe. Racontez-nous tout.
Alors, en France, il y a un championnat, oui, il y en a même trois.
D'accord.
On va dire, donc, il y a un championnat national 1 où il y a les meilleures équipes. Donc, c'est un championnat à quatre équipes,
oui,
pour l'instant. Et après, il y a un championnat national 2 et un championnat national 3. Dans ce championnat national 2 et 3, nous avons fait dans un premier temps une poule de brassage. Et après, nous avons fait des phases finales national 2 et national 3 qui vont avoir lieu au mois de mai, là, dans 15 jours. Dans 15 jours, la semaine prochaine, à côté de Périgueux, à Coursac.
Ouais.
Et l'autre qui aura lieu mi-juin à Carquefou, à côté de Nantes.
D'accord.
La National 2 aura lieu à Carquefou, mieux. Et aujourd'hui, là même, actuellement, il y a les demi-finales de la Coupe de France qui ont lieu à Bourges. Et la finale aura lieu ce même jour à Bourges en fin d'après-midi.
Est-ce qu'il y a des championnats jeunes où les jeunes sont directement intégrés dans le championnat des grands, on va dire?
Alors, en handisport, c'est souvent les jeunes intégrés dans les championnats adultes, puisque c'est très compliqué de trouver des jeunes handicapés pour faire ce sport, faire des équipes comme chez Valide.
Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'il y a peu de demandes, ou finalement le sport n'est pas assez connu, ou il fait peur?
Non, c'est pas ça. C'est que le handicap... Quand tout le monde ne veut pas faire de sport, le handicap, il y a un certain pourcentage de personnes handicapées, et donc il n'y a pas de vivier vraiment pour pouvoir créer des équipes. Alors, en sport individuel, on peut le trouver, mais en sport d'équipe, pour trouver, c'est-à-dire 8 personnes alors on va dire moins de 15 ans, ça va être très compliqué quand même, avec un handicap aussi gros. Et heureusement, on va dire, parce que voilà, sinon... on serait dans un pays de guerre peut-être.
Bien sûr.
Mais,
quel est le rugbyman le plus jeune que vous avez en équipe de France actuellement?
En équipe de France. Ça va peut-être...
C'est Corentin dans l'équipe.
Corentin Le Guen, ouais, je pense.
Il a quel âge?
Il a 22 ans.
D'accord.
Ouais, 22 ans.
Donc on peut atteindre un niveau international assez jeune finalement sans problème. C'est pas qu'un sport de vieux briscards, Pascal Gallo.
Non, mais malheureusement là c'est le pire exemple qu'on peut prendre quoi.
D'accord.
Malheureusement il se fait les cervicales au pôle espoir à 16 ans.
Ouais.
Et
ouais.
Du coup il est dans le rugby, il est accroché par le rugby.
Il est valide, c'est ça que vous voulez dire?
Il était valide à l'époque.
Au pôle espoir. Il s'est blessé
en match. Et du coup, c'est sans sport le rugby. Du coup, pour se remettre le plus rapidement en selle.
D'accord.
Il développe une structure formidable à Nuit Saint-Georges et il crée le club, il monte une structure, il crée une salle. Donc, ça serait magique qu'on ait plein de jeunes comme ça.
D'accord.
Mais heureusement qu'on en ait pas beaucoup non plus.
Bien sûr. Bien sûr. Donc, venir au rugby fauteuil quand on est en situation de handicap, c'est une passion pour le sport. Valide en tant que tel, ou c'est finalement pratiquer une discipline, bon elle s'appelle rugby fauteuil, mais finalement il n'y a pas de passion particulière pour le rugby valide, Michel Terfond. C'est quoi le profil joueurs en équipe de France?
Les deux.
Ouais.
Alors là, il y en a qui sont passionnés par le rugby valide,
ouais.
Et qui viennent pour retrouver les valeurs du rugby, et puis d'autres qui n'aiment pas forcément le rugby valide, et qui viennent aussi pour ses valeurs, mais qui n'apprécient pas plus le rugby valide que ça.
Vous venez de parler des valeurs du rugby. Est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite, ces valeurs du rugby là? On en entend parler depuis des décennies et des décennies. Le rugby valide, il est professionnel, il génère de l'argent, il y a encore un bon esprit, mais enfin ça se perd un petit peu. Est-ce que vous, par exemple, là, il n'y a pas d'argent dans le rugby fauteuil, enfin du moins je pense pas. Est-ce que malgré tout, le rugby fauteuil, on retrouve ces vraies valeurs de l'Ovalie qui sont réelles, je vous provoquais, c'est normal.
Oui.
Ces valeurs du rugby valide qu'on peut retrouver pas forcément en top 14 ou en Pro D2, quoique, mais qu'on retrouve beaucoup dans les niveaux inférieurs.
Oui, non, mais c'est obligé, parce que comme je vous disais tout à l'heure, les petits points sont obligés d'aider les gros points, et les gros points sont obligés d'aider les petits points.
Ouais.
Enfin, c'est vraiment des valeurs de solidarité qu'on a. Et là, si l'équipe avait pas été solidaire, des joueurs, du staff, de tout l'entourage, des supporters, tout ça, on n'aurait peut-être pas fait ce qu'on a fait.
D'accord.
Voilà, c'est vraiment une grande famille. On peut dire qu'on est une grande famille.
Pascal Gallo, si vous avez entre les mains, puisque je rappelle que vous êtes kiné, c'est votre profession, et kiné de l'équipe de France, si vous avez entre vos mains une personne qui cherche à faire qui correspond au handicap du rugby fauteuil et qui cherche à faire un sport, sans hésiter, vous lui proposez de faire du rugby fauteuil, parce que physiquement, moralement, socialement, ça ne peut que lui apporter de bonnes choses.
Ah bah là, plus que le kiné, c'est le prof qui va parler.
Ouais.
Michel, il pourrait vous le dire. Mon stagiaire, il est sur la fin de son stage, il est venu avec moi.
Vous êtes prof, vous êtes enseignant.
Je suis enseignant en école de kinésithérapie.
D'accord.
Et j'essaye de parler du rugby fauteuil au plus de kinés possible.
Ouais.
Parce qu'il y a encore beaucoup trop de tétraplégiques et de quadraplégiques qui sont en fauteuil électrique et qui pourraient être en fauteuil roulant manuel. Donc c'est le mini scandale social que j'essaye de faire passer un peu partout.
Ils pourraient être encore plus mobiles.
Mais complètement.
Qu'ils ne le sont.
Complètement. Je vais même m'incriminer tout seul. C'est de la faute des kinés, des médecins. Il y a pour, on va dire, un bon 20%.
C'est-à-dire que trop facilement, on les dirige vers des fauteuils électriques plutôt que
évident.
Des fauteuils manuels.
D'accord. C'est évident.
Ouais.
Et bien évidemment, après, il faut des kinés qui ont du courage, des kinés qui s'impliquent, parce que il faut du temps, il faut manier le fauteuil, c'est compliqué, il n'y a pas d'abdominaux, il y a un mauvais équilibre. Mais en même temps, c'est notre travail.
Ouais.
Et par le contact. Et d'ailleurs, j'ai adoré, d'ailleurs, je salue les étudiants de la DERF qui sont venus. Ils sont venus à une.
La DERF, c'est quoi?
La DERF, c'est une école de kiné parisienne.
D'accord.
Voilà, ils sont venus à plus de 20 voir ce sport-là. Et ça va être les meilleurs ambassadeurs. Ils vont être diplômés tous là au mois de juin.
Ils sont venus au gymnase Lumière à Paris 20e pour le TQ, le tournoi de qualification olympique.
Ça va être les meilleurs ambassadeurs, parce que dès qu'ils vont rencontrer une personne potentiellement classifiable, j'espère qu'ils vont leur dire: moi, j'ai un super sport pour toi.
D'accord.
Parce qu'il ne faut pas se mentir, quand on voit un tétraplégique, on ne pense pas lui faire faire du sport. On se dit, waouh,
ouais.
Il a quand même...
Et donc, vous estimez qu'il y a à peu près 20% de tétraplégiques qu'on dirige vers le fauteuil électrique, alors qu'ils pourraient aller vers le fauteuil manuel.
Ouais, alors pas que des tétraplégies, mais des gens atteints des 4 membres.
D'accord.
Ouais, bien sûr, c'est évident.
Ça prouve, alors là, on dépasse un petit peu le cadre de l'émission, mais c'est pas grave, c'est très intéressant, parce qu'on reste dans le sport et le sociétal. Il y a encore une méconnaissance du handicap chez certains médecins et chez certains kinés.
Alors là, mais c'est évident. Je m'en fais le garant, le porte-parole.
Ouais.
Ce qu'on veut, la difficulté que les thérapeutes et les structures ont à faire du sport à des athlètes handicapés sont absolument effarantes. Alors certes,
on progresse pourtant, j'ai l'impression, depuis pas mal d'années.
On progresse parce qu'on a un vrai avènement avec les enseignants en APA, en activité physique adaptée,
ouais,
qui s'intègrent de plus en plus dans les centres de rééducation.
D'accord.
Parce que les kinés, en fait, ils le faisaient pas. Il faut qu'on se jette notre propre pierre. Hein.
Ouais,
on le faisait pas. Heureusement que les STAPS arrivent pour tout bousculer et faire prendre
les
conscience.
Les STAPS, c'est les étudiants en éducation physique après le bac. Hein.
C'est ça, exactement. Excusez-moi.
Hein. Non, mais il n'y a pas de souci.
Et heureusement qu'ils arrivent, ils bousculent tout le monde. Et les kinés, par la part rééducative, il faut qu'ils fassent prendre conscience aux gens éligibles, aux quadriplégiques, de qu'il y a un sport qui existe. Et ensuite, passer le relais aux structures sportives qui se développent. Donc d'abord aux structures loisirs, pour qu'ils prennent le relais, pour qu'ils fassent découvrir le sport et puis pour qu'on puisse avoir ces gens-là éventuellement à haut niveau. Mais le schéma, faut pas se mentir, quand on regarde les pays qui sont devant nous, c'est des modèles sociétals à la pointe en termes de
États-Unis, Nouvelle-Zélande,
États-Unis, Australie, Canada,
d'accord,
et Grande-Bretagne. Et le Japon même.
Qui ont une autre vision du handicap, une autre vision du handisport.
Qui ont une vision intégrative du handisport. C'est-à-dire que je suis une personne en situation de handicap, je peux par le sport devenir quelqu'un d'important.
Voilà. D'accord.
Et le sport, ce n'est pas juste une activité sociétale.
C'est le message qu'on essaie de faire passer dans À chacun son sport. Aujourd'hui, on parle rugby fauteuil. On se retrouve tout de suite après la pause.
Vous écoutez À chacun son sport sur Vivre FM. Cécile Hernandez-Cervelon, Renaud Good.
On se retrouve pour parler rugby fauteuil ce matin avec Pascal Gallo, kiné de l'équipe de France, et Michel Terfond, directeur sportif du rugby fauteuil en France. Je me retourne tout de suite vers Pascal Gallo. Vous avez été athlète de haut niveau, vous avez parti de l'équipe de France d'athlétisme, vous avez été médaillé aux Jeux paralympiques de Pékin en 2008. En tant qu'athlète, est-ce que vous avez trouvé une différence, un autre état d'esprit, une autre façon de concevoir le sport en intégrant l'équipe de France de rugby fauteuil, ou finalement, c'est un peu les mêmes bases, sport individuel, sport collectif, finalement, on fait du sport tous ensemble et de la même manière?
Alors, je vais donner ma réponse en tant que sportif.
Ouais.
En tant que sportif, le dévouement et le don de soi dans le sport, quand on va atteindre le haut niveau, c'est le même quel que soit le sport, je pense.
D'accord.
Après, en tant que thérapeute, non, je reviendrai plus jamais au suivi d'un sport individuel.
Et
parce qu'ils m'ont fait rêver.
Ouais.
Ils m'ont fait rêver parce que quand je suis arrivé fin 2012, début 2013, premier stage, le kiné, il était émerveillé de voir autant de tétras qui bougent aussi bien.
D'accord.
Voilà. Et du coup, ensuite, j'ai découvert la cohésion que je ne connaissais pas dans le sport individuel.
Ouais.
Voilà. Et le transfert, le report d'énergie entre le staff et l'équipe et inversement. Et ça, c'est quelque chose qui, en athlète, peut exister à partir du moment où tous les athlètes individuels sont amis.
Ouais.
Et s'ils ne sont pas amis...
C'est plus compliqué.
C'est très compliqué, c'est vraiment
d'accord,
très compliqué.
Alors que le sport collectif, notamment le rugby, on passe au-dessus des amitiés ou des inimitiés pour créer un groupe, une collectivité et une solidarité.
Bon.
Michel Terfond, vous confirmez?
Oui, tout à fait, oui. Non, mais comme disait Pascal, c'est un groupe. Alors, tout le monde ne partira pas en vacances ensemble, hein, dans le groupe, hein,
bien sûr.
D'accord. Mais on est là pour faire un groupe et on forme ce groupe. Je répète, hein, si on n'avait pas eu ce groupe, on ne serait pas, on partirait pas pour Rio. Voilà.
D'accord. Michel Terfond, à la rentrée prochaine, il y aura les Jeux. Vous allez être médaillé, bien sûr. Et puis, ben, forcément, il va y avoir un afflux de personnes qui vont vouloir jouer au rugby fauteuil. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour s'inscrire où que l'on habite en France?
Alors actuellement, il y a 14 clubs en France déjà, donc c'est pas mal.
Répartis sur l'ensemble du territoire ou plutôt dans certaines régions et pas dans d'autres?
À peu près.
Ouais.
Il y a que la Bretagne qui est pas trop bien, il y a encore c'est Nantes, donc voilà, donc ils peuvent toujours prendre...
C'est un peu la Bretagne quand
Nantes,
même.
Carquefou, voilà, c'est la Bretagne, la Bretagne de Carquefou, donc ils peuvent toujours prendre contact avec ces gens. Et après, il y a en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, il y a 3 clubs. En Midi-Pyrénées... Languedoc-Roussillon, il y en a 3.
D'accord.
Il y en a un en PACA, il y en a 2 en Auvergne Rhône-Alpes.
D'accord.
Il y en a
en Ile-de-France.
À Paris, il y en a en Ile-de-France, il y en a un. Il y en a un dans les Hauts-du-Nord.
D'accord. Les Hauts-de-France. Hein, la nouvelle appellation.
Les Hauts-de-France.
Donc finalement, le maillage est assez bien fait. Mais j'aurais tendance à dire 14 clubs, bon, c'est bien, mais c'est peut-être pas encore suffisant. Est-ce qu'il y a des projets? Quelle est la politique un peu de la commission de rugby fauteuil pour développer ce sport, on va dire, sur les 4 prochaines années?
Alors, la politique, on n'a pas trop réfléchi encore pour les quatre prochaines années.
Ouais.
Hein, parce qu'on finit la Paralympiade.
D'accord.
Il faudrait qu'on ait pensé, on aurait déjà pensé aux Jeux de Tokyo, déjà.
Ouais, ouais.
Mais malheureusement, on est une petite commission dans une fédération où il y a beaucoup de sport,
ouais.
Et donc on n'a pas les moyens, je pense, de penser à si long terme. Donc voilà, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on pense au développement dans les 4 prochaines années.
Ça viendrait plus avec ce que vous avez dit éventuellement en début d'émission, ça viendrait plus avec peut-être une plus grande relation avec la Fédération française de rugby qui pourrait peut-être inciter les clubs valides à ouvrir des sections rugby fauteuil.
Bien sûr, oui, tout à fait.
Ouais.
Ça pourrait. Alors moi je reste pas, mais si on arrivait à avoir autant de clubs que d'anciennes régions, c'est-à-dire 25 clubs,
ouais,
on serait bien.
Ça serait pas mal.
On serait bien. Ouais,
d'accord.
Ça serait pas mal. Hein, on en est à 14, c'est pas mal, à 14 dans 7 ans.
Oui, c'est un sport jeune, voilà, il faut le répéter, voilà, c'est un sport jeune en France.
Oui, et puis il y a beaucoup de personnes qui connaissent ça. Il y a pas mal de gens qui sont venus justement au TQP nous voir, qui découvraient ce sport et qui ont trouvé ça formidable, qui étaient venus pour voir ce que c'était ce rugby fauteuil et qui sont revenus justement pour nous encourager, voilà. Et c'est bien. Et puis les retransmissions qui ont été faites.
Oui, c'est vrai qu'on a pu suivre ça sur le web, hein,
sur le web,
en direct.
Même aujourd'hui, les rencontres qui vont avoir lieu à Bourges aujourd'hui sont toutes retransmises sur le web, sur Cascasport TV. Donc.com, vous pouvez regarder toutes les rencontres. Hein. Il y a une demi-finale, il y a la place 5-6, et après il y a les places 4-5. Toutes les rencontres d'aujourd'hui sont
diffusées,
transmises sur le web.
Pascal Gallo, voilà. En tant que kiné de l'équipe de France, donc vous étiez forcément présent lors du tournoi de qualification. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez amené des kinés, une école de kinés, pour venir voir le tournoi. Quelles sont les phrases que ces personnes vous ont dit à la fin? Ils connaissaient pas du tout ou très peu. Y a des mots qui sont ressortis de manière instantanée, spontanée.
Oui, il y en a.
Ouais.
C'est une dinguerie. Je vais faire du rugby fauteuil à tous les tétraplégiques que je rencontre.
Ouais, d'accord.
J'ai gagné.
Ouais.
J'ai gagné, franchement, je peux pas être plus content.
D'accord.
Forcément, c'est les étudiants les plus intéressés qui sont venus.
Ouais.
C'est aussi peut-être ceux qui vont pousser la réflexion le plus loin.
Ouais.
Et peut-être ceux qui créeront justement une structure de rugby fauteuil dans le club valide de leur village ou de leur ville. Globalement, ils étaient incroyablement surpris de voir les capacités que peuvent avoir, en fait, ce genre de patient.
Les capacités, c'est des capacités physiques. Est-ce qu'il y a aussi des capacités cardiaques? Quelles sont les qualités, voilà, les qualités physiologiques pour être un bon joueur de rugby fauteuil, Pascal Gallo?
Justement, on s'interroge. À notre dernier stage à Bourges, on a fait venir une équipe de recherche d'Amiens.
D'accord.
On les salue. Justement pour faire un travail sur les constantes physiologiques,
ouais,
l'adaptabilité cardiaque, etc. Parce que c'est assez nouveau, il y a assez peu de recherches.
Ouais.
Donc c'est un travail d'intervalle, hein, d'intervalle training, surtout de cardio.
Oui, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours, il y a beaucoup d'arrêts,
sprint,
on relance, on...
C'est exactement.
Très...
Exactement, et comme c'est difficile quand on est tétraplégie,
ouais,
pour des joueurs... entre guillemets les plus atteints, hein, en termes de capacité, l'idée, en fait, c'est justement de pas créer cet intervalle.
D'accord.
Voilà, d'essayer qu'ils soient en mouvement le plus souvent possible parce qu'ils ont des fréquences cardiaques plateau.
Mm-hmm.
Du coup, ne serait-ce que de voir ça, pour nous c'est très intéressant, voir que les gros points, les moins handicapés entre guillemets, eux montent très très vite dans les tours. Ça nous a permis aussi de savoir qu'il faut déplacer la cryo au bord du terrain et pas attendre la fin du match.
La cryo, c'est?
C'est la récupération par cryothérapie.
Cryothérapie, donc c'est le froid au contact
de manière,
du muscle.
Exactement, donc du muscle, des articulations. Donc ici, nous, on avait fait un choix, grâce à l'équipe de recherche, de refroidir nos athlètes par les sinus et par, en fait, le tronc cérébral, les oreilles, la
D'accord.
nuque, etc. Donc c'était vraiment un choix, c'est eux qui nous l'ont apporté. Je l'ai fait au bord du terrain. On a vu que et le turnover du coach Et la récupération, ça, on a vraiment...
D'accord.
Les joueurs ont pu profiter d'une capacité géniale.
Il y a une approche professionnelle de votre part par rapport au son à apporter aux joueurs de l'équipe de France. Michel Terfond, c'est quoi l'actualité de l'équipe de France d'ici Rio 2016, d'ici le mois de septembre? Des stages sont organisés, des regroupements, qu'est-ce qui va se passer?
Alors, il y aura des stages.
Oui.
Il va y avoir au moins 3 stages et un tournoi. 3 stages, dont un avec l'équipe suédoise.
D'accord.
Voilà, donc, et puis un tournoi en Pologne, le Metro Cup.
OK.
Qui sera mi-juillet.
Vous allez emmener combien de joueurs à Rio?
À Rio, on va emmener 12 joueurs, normalement.
D'accord. Il y a 12 joueurs qui sont emmenés. Et ouais. ça représente un staff de combien de personnes, en plus, des joueurs?
Alors, staff, nous, ce qu'on voudrait, mais alors ça, c'est pareil, il y a un quota fédéral.
D'accord.
Donc, nous, ce qui me plairait bien, c'est au moins d'avoir 6 staffs. Voilà.
6 personnes faisant partie du staff, en plus des 12 joueurs.
Plus des 12, voilà, une délégation de 18 personnes. J'espère qu'on va l'avoir.
D'accord. Normalement, la sélection, elle tombe quand? En début juillet, c'est ça?
Les sélections, ben, théoriquement, ils avaient dit que du moment que l'équipe ou les joueurs, quand c'est valide, étaient sélectionnés, disons, ils donneraient rapidement toutes les informations.
D'accord.
Donc je pense que dans la semaine prochaine, on devrait avoir toutes ces informations.
Voilà. Ça va pas tarder. Dernière question, Michel Terfond, vous visez les demi-finales. Qu'est-ce qu'il va falloir faire et comment il va falloir aborder ce tournoi paralympique pour se donner le droit de rêver d'atteindre les demi-finales et peut-être une médaille?
Alors, pour atteindre les demi-finales, si on est aussi consciencieux et que lors du tournoi, je pense que ce ne sera pas un rêve, ce sera une réalité.
D'accord. Donc beaucoup de concentration, après, beaucoup de sérieux.
Beaucoup de sérieux, de l'écoute du coach, des consignes du coach, voilà, qu'il faudra qu'elles soient appliquées, parce qu'on a un super coach, hein, Olivier Cuisin. Et si les joueurs font, il n'y a pas de problème parce que ça peut toujours arriver, vous savez, on sera loin des bases, il y a toujours des petites choses,
des impondérables.
Les joueurs sont, voilà, qu'on ne peut pas, qu'on ne maîtrise pas, mais si tous les joueurs sont en pleine pourcaison, le moyen comme au TQP, je pense
ça devrait aller.
Ça devrait le faire, comme on dit dans le milieu.
On arrive au terme de l'émission. Merci beaucoup, Pascal Gallo, d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup, Michel Terfond, de vous être rendu disponible par téléphone. Une toute dernière question, Michel Terfond, vous répondez par oui ou par non. Lors de la qualification de l'équipe de France, est-ce que oui, vous avez fait une troisième mi-temps bien arrosée? Oui ou non?
Oui.
Très bien. C'est les valeurs du rugby, c'est ce qu'on voulait entendre. Merci à tous les deux et on vous suivra bien sûr lors des Jeux Paralympiques de Rio. Salut à tous, bon week-end. Sortez, bougez-vous et regardez le rugby, c'est un super sport. Bye bye.